Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Le Club de Tamani.
Tous les vendredis à 18h15.
Très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute, chers auditeurs. C'est l'heure de votre émission préférée de tous les vendredis soirs, Le Club de Tamani. L'émission culture qui vous fait découvrir le paysage culturel malien sous tous ses angles. Ce soir au club, nous faisons un zoom sur les tenues traditionnelles maliennes. Oui, au Mali, à l'occasion des événements sociaux, qu'ils soient heureux ou même malheureux, les uns et les autres s'identifiaient facilement à travers leur habillement. Le vent de la modernité a-t-il épargné ces pratiques culturelles ancestrales? Les tenues traditionnelles ont quelle valeur de nos jours? Comment développer les secteurs du textile traditionnel malien? Monsieur Ousmane Koulibaly, directeur du Centre de développement de l'artisanat textile, CDAT, est notre invité. Il va répondre à ces interrogations. Lala Diarra Touré et Aïssata Diarra sont à la présentation avec la complicité technique de Ibrahim Sanogo. Bonsoir à tous. Bonsoir Aïcha.
Bonsoir Lala, comment tu vas?
La réponse est évidente. Je vais bien car nous sommes vendredi et nous allons souhaiter la bienvenue à nos fidèles auditeurs avec cette première chanson de Fatinia Mikouyaté qui nous chante Nakan.
Fati Kouyaté Djeli Nagam Fele Bambo tata de Fatinya mena kam fele Antunya jeli ajugu ya mafentinye ni Mandengara luyo Suteko mani dongo che Jeli atora nyogone ni mima fati sendola Atora bezini ni mima jeli sendola Jeli atora cheko kele mina fati sendola No 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 Jeli asera dame chinye mima ne sendola Fati jeli musu fati
Kuyate
Fati duwa uni mbarika
Kuyate
La digne héritière du fée Tata Bambou à l'instant, Fatinia Mikouyaté dans Nakan, un titre sorti le 6 mai 2023 qui comptabilise à ce jour plus de 29 millions de vues sur YouTube Lala.
Après ce premier délice musical, allons avec le résumé de l'actualité de la semaine et pour cela, nous accueillons Moussa Malé Sissoko.
La revue de la presse.
Heureuse de te recevoir, Moussa Malé Sissoko, pour nous décortiquer l'actualité de la semaine. Bonsoir déjà.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïcha.
Bonsoir.
Je suis ravi de partager ce plateau avec vous.
N'est-ce pas? Voilà les sujets largement évoqués par les journaux cette semaine. Les inondations dues aux eaux de pluie et la série de rencontres dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Plusieurs localités du pays ont enregistré de fortes pluies ces derniers temps, provoquant des inondations. Ces déluges ont causé des effondrements de maisons et des sinistrés. Des premiers dégâts enregistrés à Bla et à Gao rapportent l'hebdomadaire Le Reflet d'Afrique. 886 ménages affectés, 479 maisons détruites dans les régions de Ségou, Koutiala, Sikasso, entre les 16 et 25 juillet 2024, révèle l'Indépendant. Dans sa parution du 24 juillet, ce quotidien privé précise que Bla, Pensoba, Louloni, dans le cercle de Kadiolo, ont été les plus touchés par ces inondations, avec des dégâts matériels considérables. Plus de 1800 sinistrés recensés à Pensoba, région de Kuchala, annonce Malijet.net. Cet autre quotidien privé, l'indicateur du renouveau, qui est revenu sur le cas des Blas, titre « Plus de 300 personnes touchées, dont des maisons effondrées ». Ce lundi 22 juillet 2024, une forte pluie s'est abattue pendant des heures sur la ville. Une grande opération d'évaluation a été effectuée par la protection civile des Blas en collaboration avec les services locaux du développement social, rapporte le journal du groupe Renouveau. Ces déchets qui causent des inondations, dénonce Mali Tribune dans son numéro de ce 25 juillet 2024. Le Bi hebdomadaire estime que l'insalubrité à Bamako en cette période d'hivernage est l'une des causes des multiples inondations que connaît la ville des Trois Caïmans. La population se plaint de l'insalubrité dans plusieurs quartiers de Bamako, poursuit le journal. Pourtant, elle est la principale actrice de cette situation. Les ménages profitent de la saison pluvieuse pour évacuer les ordures à travers les eaux de ruissellement et les caniveaux. Du coup, ces drains se trouvent bouchés, occasionnant des inondations, a confié Mali Tribune. Pourtant, Mali Météo avait prévenu que la saison pluvieuse 2024 sera caractérisée par une pluviométrie importante, rappelle l'indépendant Aïssa Tadjara.
Moussa Malé Sissoko, la commission chargée de la rédaction de l'avant-projet de la charte de paix, engage des consultations avec les forces vives de la nation.
Tout à fait, Aïcha. L'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale est l'une des principales résolutions de la phase nationale du dialogue intermalien tenue en mai dernier. La commission de rédaction du document a entamé ce lundi 22 juillet une série de rencontres avec l'ensemble des forces vives de la nation. Saheltribune.com indique que ces consultations visent à sortir un document de référence pour toutes les initiatives pour la sécurité, la paix et la réconciliation nationale. L'indicateur du renouveau explique que les discussions s'articulaient autour des cinq thématiques, à savoir la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La commission a échangé également avec la classe politique. Info Matin, un quotidien privé, note une grande mobilisation des chefs des partis et regroupements politiques à cette rencontre. Comme il fallait s'y attendre, la question de la libération des prisonniers politiques s'est invitée dans les débats, annonce le journal. Les 11 responsables politiques arrêtés sont des citoyens maliens qui manquent à cette assemblée et ils méritaient d'occuper leur place vide, a interpellé Djigba Keïta. Selon Info Matin, ce cadre du parti Parena a chargé le président de la commission pour avoir accepté de diriger cette commission. Évitons de nous interpeller, de croire que l'un peut donner la morale à l'autre, mettons la balle à terre, a conseillé le président de la commission. Avant de répliquer, je ne peux pas me substituer à la justice de mon pays pour répondre à cette question sans jambage devant la classe politique concernant les dossiers des leaders politiques arrêtés. Et si l'État était le seul obstacle, s'interrogent les échos, le journal de l'édition quotidienne de Diamana estime que plusieurs initiatives ont été menées précédemment pour combler les fossés qui séparent les Maliens. Ne faut-il pas chercher les causes profondes de la division de la gouvernance, se demandent les échos ce 25 juillet 2024. Le quotidien national L'Essor s'exclame. Échange fructueux entre la commission de rédaction et les forces vives. Les organisations des femmes, des jeunes, des personnes vivant avec un handicap, les syndicats, les organisations socio-professionnelles et le Conseil national du patronat ainsi que les universités ont tous été consultés par la commission de rédaction de l'avant-projet à détailler L'Essor, Lala Touré.
Et nous allons terminer avec cette saisie de cocaïne à l'aéroport international, président Modibo Keïta.
Absolument, Lala. Les Mali24.info affirme que cette opération de saisie de 12 kg de cocaïne s'est déroulée ce lundi 22 juillet 2024 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako Senou. L'indicateur du renouveau revient sur les faits. Le mode opératoire était de double fond de 4 valises. La vigilance des enquêteurs de l'antenne de la cellule aéroportière anti-trafic a permis d'appréhender deux dealers en possession de cocaïne. L'indépendant de son côté se veut encore plus précis, deux franco-maliens arrêtés en possession de 12 kg de cocaïne. Le journal précise que les deux individus âgés de 20 à 21 ans étaient en partance pour Bruxelles par Royal Air Maroc, mais leur destination finale était Paris en France. Selon Info Matin, la valeur marchande de ces produits est évaluée à plus de 480 millions de francs CFA. Dans les colonnes du journal ce 24 juillet, le directeur de l'OCS, Office central de stupéfiants, rappelle que cette saisie est la preuve du courage, du dynamisme et de l'engagement de ces éléments.
Merci Moussa Malé pour toutes ces informations. Nous te retrouverons tout de suite pour la version l'émission En Bamanankan. Enchaînons avec la rubrique Coulisses de l'info.
Les coulisses de l'info.
Dans cette rubrique, aujourd'hui, Lala Fatoumata Kodjo nous parle de l'éthique et de la déontologie en journalisme.
C'est exact, Aïcha. Elle s'est entretenue avec Bandjougou Donté, président de la Maison de la Presse.
Suivons ce qui en ressort, Lala.
L'éthique et la déontologie sont des valeurs qui doivent guider l'action du journaliste. Certes, les valeurs d'éthique et de déontologie ne sont pas propres seulement aux journalistes. Chaque profession doit avoir son éthique et sa déontologie. Pour ce qui concerne le cas des journalistes, ce sont des valeurs qui consistent pour le journaliste à savoir ce qui est recommandé, ce qui ne l'est pas.
Qu'est-ce que l'éthique et la déontologie représentent pour un média?
Ça doit représenter une question d'honneur, une question de dignité, une question de fidélité et de loyauté avec la profession qu'il a librement choisie.
Alors, quels sont les dangers liés au non-respect de l'éthique et de la déontologie?
D'abord, il y a plusieurs dangers qui sont liés à ça. Un journaliste qui ne respecte pas l'éthique et la déontologie s'expose d'abord. Il s'expose aux sanctions. Ces sanctions peuvent avoir plusieurs natures. Il s'expose surtout au rejet par la société. Parce qu'un journaliste discrédité est un journaliste qui est appelé vraiment à disparaître.
Aujourd'hui, est-ce que les journalistes respectent l'éthique et la déontologie comme leurs prédécesseurs?
Malheureusement, les gens ignorent les fondamentaux même de la profession. Et le respect de l'éthique et de la déontologie, avant d'être professionnel, était une question d'éducation, ce qui est extrêmement important. Parce que tout ce que nous apprenons, que ce soit le journalisme, que ce soit les autres métiers, les valeurs positives liées à ça ne sont ni plus ni moins tirées que des réalités de la société. Hélas, aujourd'hui, l'éthique et la déontologie sont violées par l'écrasante majorité des journalistes. Moi, je préfère ne pas parler de jeunes et de vieux. Et parfois, il y a des aînés qui aussi violent avec aisance l'éthique et la déontologie. D'abord, il faut connaître et aimer un métier avant de l'exercer. Quand on le connaît, quand on l'aime, on cherche à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est demandé. On n'invente rien. Tout est écrit, tout est dit. Et quand on apprend, on saura.
Place à présent à notre invité culture.
L'invité culture.
L'invité culture de ce vendredi est M. Ousmane Koulibaly, directeur du Centre de développement de l'artisanat textile CDAT. Lala.
M. Koulibaly, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, comment vous allez?
Ça va, et vous?
Alhamdulillah, Dieu merci.
Alors, ce soir, nous nous intéressons aux tenues traditionnelles qui également sont des moyens d'expression. Dites-nous, s'il vous plaît, M. Koulibaly, c'est quoi déjà une tenue traditionnelle?
Quand vous parlez de tenues traditionnelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un ensemblage. D'abord, vous avez pris le coton depuis le champ, vous l'avez cardé pour enlever les graines, vous l'avez filé et puis vous l'avez mis dans un métier à tisser pour faire les assemblages et afin d'avoir un tissu. C'est ce qu'on appelle la tenue traditionnelle. Ça veut dire tout simplement la tenue qui est faite à partir de la main sans qu'il n'y ait aucune intervention de la machine.
Au Mali, M. Koulibaly, il y a beaucoup d'ethnies, donc beaucoup de pratiques culturelles. D'où est venue donc cette façon de faire qui permettait directement d'identifier au premier coup d'œil qui joue quel rôle lors des différentes cérémonies ou autres événements?
Vous savez, quand vous dites une société est une organisation. Et une organisation voudrait dire que alors il y a quand même un premier et un dernier. Je voudrais dire ici que dans toute société, dans toute contrée que vous prenez, vous allez trouver que alors le premier habitant, en tout cas de cette société ou de cette contrée, de ce village, alors il y a quelqu'un qui l'a fait d'abord. Et généralement, si nous prenons au Mali ici, vous allez trouver que la plupart des villages qui ont été fondés généralement par des chasseurs. Parce que nous, en matière de tenue, on dit que la tenue parle.
Justement, la tenue parle. Voilà. Et on l'a dit lors des événements sociaux, qu'ils soient malheureux ou heureux. Voilà, par exemple, lors des mariages, le Demba, la marraine, Djalabe Munkuna, elle, facilement, parmi les milliers d'invités, on pouvait deviner c'était elle, la Demba. Pour les événements malheureux, par exemple, un décès, voilà, s'il y a une veuve, directement, on savait que c'était elle, la veuve. D'où est venue cette manière de faire, là?
Non, cette manière de faire, d'abord, quand on prend pour le cas des décès, c'était, comment dirais-je, en termes de compassion. Donc, vous savez, quand il y a décès, chez nous, traditionnellement, tout le monde compatit à la douleur. Et pour que, maintenant, la femme qui est dans le veuvage soit différencié des autres. Il y avait plusieurs sortes, plusieurs cas. Donc, parce que quand vous prenez notre tradition, je ne parle pas de maintenant, quand nous reculons très très loin, d'abord, les hommes étaient bien préparés en matière de préparation, en matière de gris-gris. Donc, ce qui fait que, généralement, il y a des gens tellement qui sont préparés en termes de gris-gris, ne devraient pas être dans le même milieu qu'une femme en veuvage.
D'accord.
Ou alors comme une femme, vous m'excusez, en masculin. Okay. Ou alors une femme qui vient de donner naissance, mais qui n'a pas fini en tout cas de faire d'être propre. Voilà, c'est ça. Donc, c'était interdit. Donc, c'est pourquoi on mettait cette différence. Donc, il y a des tenues spécifiques qui étaient faites, mais toujours, ça trouvait qu'il y a les populines autres là que les gens mettent aujourd'hui, les populines bleues, populines blanches, ainsi de suite, n'étaient pas venues. C'était seulement les tenues traditionnelles faites avec le tissage. Et selon les contrées, on mettait une coloration sur la tenue, de telle sorte que tout le monde, quand vous voyez cette femme, vous savez, vous vous rendez immédiatement compte que cette femme est en veuvage.
Une couleur consensuelle.
Une couleur consensuelle. De même aussi que, et dans certaines, au niveau de certaines ethnies même du Mali ici, présentement dans certains coins reculés, ça existe. Dès que la femme est en mensuel, il y a une sorte de tenue qu'elle porte.
D'accord.
Et ça finit maintenant, sinon, chez certaines ethnies, ces femmes étaient éloignées du village. Donc quand vous finissez, vous revenez.
Mais pourquoi tout ça?
Voilà, pourquoi tout ça? Parce que nous, nos hommes, maintenant, ne sommes pas préparés en termes de gris-gris.
Ah.
Voilà, donc il y a certaines choses, vous ne pouvez pas les porter sur vous. Et vous êtes avec votre femme dans la maison, elle ne doit pas toucher à ces choses parce que ça va les gâter. À moi, il faut un coup de chien à fond.
Avec la bain-chien.
Avec la bain-chien. Et le cas du mariage aussi, c'était spécifique. Vous savez, maintenant, nous, nos femmes ou nos hommes, ça veut dire qu'on porte les grands boubous, ainsi de suite. Mais dans le temps, c'était pas comme ça. Vous allez trouver que c'était le coblanier blanc que la femme portait et régulièrement tous les jours. Mais pendant les jours de fête, donc on change. De même qu'un chef qui, alors, n'avait pas la même coloration de sa tenue que les autres. Donc, vous rentrez dans le village tout de suite, vous voyez un vieux là-bas, la coloration de sa tenue, vous dites immédiatement que celui-là, alors, est un chef. Ou alors, vous rentrez dans le village, vous voyez, généralement, quand il porte cette tenue-là, le coblanier blanc avec les mouffières comme ça, là, donc vous allez voir qu'il porte les chapeaux. Et généralement, les chapeaux que vous voyez porter, vous allez voir qu'il y a des boules qui descendent sur les chapeaux. Et ces chapeaux étaient généralement portés par des conseillers du chef, du roi. Donc, selon que votre boule là soit nombreuse, ça veut dire que vous méritez plus la confiance du chef. Donc, c'est pour que notre société était très bien organisée.
D'accord, on a beaucoup parlé des tenues. Parlons maintenant des modèles de coiffure de tresse. Par exemple, le milieu Kasonke, Bambara, Sorey. Les modèles de tresse à eux seuls sont très expressifs. Quelle est la nécessité de faire cette différence-là? Par exemple, le Rimbakun, les Jibatokun et Konyamuso également.
Ces différentes sortes de tresse, quand vous les prenez, par exemple, quand vous les prenez, quand on prend même une femme en veuvage, généralement, la femme doit s'habiller de telle sorte qu'elle ne soit pas attirante parce qu'elle est dans la compassion, elle est dans la douleur. Donc, c'est pourquoi, généralement, la tenue qu'elle portait ou tout ce qu'elle portait ne doit pas être attirant. C'est pourquoi, vous les voyez donc maintenant, on fait des tresses sur sa tête, des tresses qui sont faites en toi à la va-vite. Maintenant, quand vous prenez les tresses pour les Dembakun, il y a plusieurs sortes, ça a beaucoup varié aujourd'hui. Sinon, la tresse même pour les Dembakun, généralement, c'était fait et en même temps aussi, il y avait, comment dirais-je...
Des ornements
là-dessus.
Oui.
Et il y a deux trucs aussi qui descendaient pendant ici aussi.
Dembaturu.
Donc, ils descendent. Et au bout, maintenant, ceux qui sont riches, maintenant, mettez de l'or dedans. Ceux qui ne sont pas riches, maintenant, mettons des samlas en toi de deux corps là-dessus et la tête aussi. Donc, quand vous le voyez, on sait que c'est là et des morts. Ainsi de suite.
Okay. Merci, M. Koulibaly, pour ces premières réponses. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de développement de l'artisanat textile CDAT.
Si vous venez de prendre le train en marche, vous écoutez les clubs de Tamani, l'émission Culture sur Studio Tamani. Nous allons souffler un peu en musique. Tu en dis quoi, Aïcha?
Très bonne idée, Lala.
Cette fois, nous allons écouter des légendes de la musique malienne, deux icônes qui nous ont malheureusement quittés, Ali Farka Touré et Toumani Diabaté. Le titre, c'est « Ben manquant ». Farka Touré, né en 1939 dans la cité des 333 saints, est décédé le 6 mars 2006. Toumani Diabaté, qui a tiré sa révérence ce 19 juillet 2024, est né le 10 août 1965 à Bamako. Ali Farka et Toumani Diabaté ont reçu chacun plusieurs distinctions, 3 Grammy Awards pour Ali Farka et Toumani Diabaté 4. Malheureusement, on l'a dit, les artistes continuent à vivre à travers leurs œuvres. Que leur âme repose en paix.
Amen. Lala. Alors, nous venons d'écouter là une belle mélodie des artistes qui ont parcouru tous les continents et valorisent la musique traditionnelle. Qu'est-ce que vous pensez de ces artistes, M. Koulibaly?
On a dit, la culture est ce qui reste après avoir tout perdu. Le Mali est un pays culturel. Et notre société, aujourd'hui, même le Mali Koura dont on parle aujourd'hui, ne peut pas se faire sans cette culture-là. Et ouais, la culture n'a pas de frontières. Ali Farka Touré, c'est pas intellectuel. Mais sa musique a franchi tous les continents. Vous partez, par exemple, en Amérique aujourd'hui, vous demandez, est-ce que vous connaissez le Mali? Ils vont dire, ah non. Vous dites, est-ce que vous connaissez Ali Farka? Oui, oui, oui. Donc, ça veut dire que la culture porte plus haut le flambeau de notre pays.
D'accord. Nous parlons de culture malienne à l'étranger. Comment, justement, cette culture est-elle perçue par les autres en dehors de la musique, bien sûr?
Le Mali, quand vous le prenez depuis le temps des Kankoum, le Mali est connu partout. Si vous prenez en termes de culture, que ce soit en termes de musique, que ce soit le thème sur lequel nous parlons en termes de textile, les gens font rayonner le nom du Mali un peu partout. À travers notre, ce que nous faisons ici, notre tenue vestimentaire, à travers notre borla, qui est unique dans son genre et qui n'est pas imitable. Et vous allez partir dans les grandes firmes aux États-Unis, en Suisse, en Italie, vous allez trouver le borla du Mali là-bas.
D'accord. Voilà. Vous l'avez dit, dans les grandes industries, dans les grandes firmes, on retrouve les textiles du Mali. Mmh. Mais est-ce que, à votre niveau, vous en tant que directeur du CDAT, est-ce qu'il y a des projets visant à protéger cette culture-là, justement? Parce que dans d'autres pays, on voit que les gens parlent de labellisation, on est en train de breveter. Est-ce que ici, ces initiatives-là sont prises?
Oui, ces initiatives sont prises. Vous savez, il y a 2 ans, moi, j'étais en Italie. Vous savez, l'Italie, c'est la capitale de la mode au monde. L'Italie, on a amené le borla en Italie. Mais bien avant ça, il y avait un projet qui était venu ici. Et l'objectif de ce projet, c'était d'amener le borla du Mali dans les grandes firmes du monde en matière de mode. Mais si vous voyez le borla confectionné là-bas, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est le borla. Cela nous a amené alors à réfléchir. Le borla, quand vous prenez la décomposition borla, ça veut dire que le travail de la terre. Donc nous sommes dit, faut-il laisser la chose comme ça? S'il le faut, nous allons perdre. C'est pourquoi nous avons entamé un processus avec le SEMAPI, en plus avec les artisans, pour pouvoir labelliser le borla. Et à travers cela, donc, les artisans ont mis un groupement en place qu'on appelle Borodambi. Parce que vous savez, l'administration ne devrait pas faire. C'est les artisans qui devraient le faire. Mais puisque nous avons trouvé qu'ils étaient là, il n'y avait même pas de groupement, donc le SEMAPI, le CDAT ont déclenché le processus pour faire la labellisation. Et quand nous sommes arrivés à un niveau, donc maintenant, ils ont formé leur groupement et maintenant, on leur a mis leurs choses en main. Mais pour vous dire que le processus de labellisation du borla est très avancé. Parce que le directeur même de l'OAPI, l'Organisation de la propriété intellectuelle pour l'Afrique, est venu au Mali ici, donc nous lui avons remis l'IGP, l'identification géographique protégée. L'IGP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons sillonné partout le Mali pour voir là où le borla est fait. Le borla est fait à Kolokani, comment ils font? Le borla est fait à Sigasso, comment ils le font? Et regrouper toutes ces informations, c'est ce qui est mis dans un document qu'on appelle l'IGP. Et maintenant, les deux ministres, le ministre de la Culture, en charge de la Culture, de l'artisanat et le ministre en charge de l'industrie du commerce qui est le responsable de la normalisation au Mali. Donc maintenant, on signe le certificat de reconnaissance et ce document a été remis au directeur de l'OAPI. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de faire des enquêtes. S'il n'y a pas d'opposition, ils vont nous donner maintenant notre certificat de labellisation. En ce moment, nul ne pourra revendiquer le borla. Et chaque fois qu'il y a une contrefaction de borla qui veut rentrer au Mali, au niveau de la douane, on arrête. Parce qu'il faut labelliser. Le Mali est en retard en termes de labellisation. Nous avons beaucoup de choses. Oui. Il faut labelliser.
Alors, M. Koulibaly, chaque vêtement est un dépositaire de l'histoire portant dans ses plis les histoires et les valeurs des générations passées. Mais il est malheureux de voir que certaines pratiques culturelles sont à l'agonie. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour passer cette étape?
Aujourd'hui, chacun de nous dit aujourd'hui, les gens ne sont pas comme avant, ne sont pas comme avant. Mais on doit se poser la question, comment? Parce que nous avions dans notre société une organisation, une sorte d'éducation qui faisait que l'homme avec grande tâche était préparé depuis le début. Les enfants, depuis à bas âge, généralement, l'exposition était faite. Un an après, donc, les gens se mariaient. Donc, pendant ce temps, les filles étaient regroupées sous un toit était confiée à une dame vieille du village. Les garçons aussi la même chose. Et c'est cette éducation qui était calquée au niveau de ces filles et au niveau de ces garçons. Pour les dire, vous ne devrez pas faire cela en tant que vous êtes ressortissant de cette contrée. Si vous le faites, vous allez apporter le malheur à votre société. Et personne n'allait le faire. Si jamais un de vous voulait et que ça s'avérait en place publique, ça veut dire que c'est toute votre génération alors qui porte le malheur. Ces valeurs étaient calquées aux enfants. Et aussi, il y a certaines pratiques aujourd'hui qui ont fait que la religion a dissipé ces pratiques-là. Parce qu'il y avait souvent certaines sanctions qu'il fallait directement. Parce que souvent, les vieux ne s'hasardaient pas à éliminer, hein, sur le plan chimique, un garçon qui vraiment allait apporter un déshonneur sur la famille.
Voilà,
c'est ça. Il y avait tous ces trucs. Comme Mme Touré l'a dit, on pouvait aller, ces gens-là, porter le serment sur ces fétiches. Il faut qu'on retourne sur ces pratiques-là. Que les parents gardent les responsabilités, se reconnaissent responsables des enfants et que les enfants, en toi, reconnaissent que alors on a un parent. Et que chacun se rende compte que je dois suivre une ligne.
Justement, vous l'avez dit, beaucoup de nos valeurs sont malheureusement en perte de vitesse. Vous avez aussi écorché une partie, c'est le règlement des conflits dans une société donnée à travers seulement un tissu. Expliquez-nous.
Dans le milieu où on fait le tissu, nous on dit que le tissu parle. Quand vous prenez les pentelous, un tissu qui était chez les peuples qu'on appelle les mounimouri. Les mounimouri étaient confectionnés par les mabots, les tisserands, et que la femme peut le mettre dans le trousseau de sa fille. Elle va chez son mari, et lorsqu'il y a une dispute entre eux, si c'est le mari qui se sent offensé, le mari prend maintenant le tissu, étale sur le lit. Quand la femme rentre, immédiatement, elle se rend compte que j'ai fait quelque chose du mal à mon mari. Immédiatement, à deux, il règle ce problème entre eux. Vice-versa. Maintenant, lorsque cela n'arrive pas à être réglé entre les deux, en tout cas, l'une des partie prenait le tissu et ramenait dans la famille, dans la belle famille. Dès que le tissu est vu amener, on sait qu'il y a problème. Si c'est l'homme qui l'a amené, on appelle la femme. Si c'est la femme qui a amené, on appelle l'homme. Et maintenant, on règle le différent qui est entre eux. Mais le tissu là ne pouvait pas être ramené trois fois. Ah non.
Quand t'as plus de trois fois.
Voilà, plus de trois fois. Ça veut dire que c'est le divorce. Ce couple-là n'arrive pas à s'entendre. Mais cela était difficile parce que c'est de nos jours qu'on voit les divorces. Avant, il n'y avait pas de divorce parce que le mariage était fait sur des bases bien solides.
Mais là, j'ai envie de demander à M. Koulibaly, est-ce que ce tissu dont vous parlez existe toujours dans le milieu pelu?
Ce tissu existe toujours. Son rôle, c'est toujours le même rôle, mais ça a tendance à disparaître parce qu'il y a beaucoup de jeunes mabots aujourd'hui qui ne savent même pas tisser. Et tout récemment, nous avons même organisé une formation dans ce sens pour que les tisserands qui sont plus âgés puissent apprendre aux jeunes. En tout cas, c'est tissu qui a tendance à disparaître.
Justement, le tissu disparaît. Mais qu'est-ce que les populations locales doivent faire pour justement valoriser et contribuer au développement du textile, du secteur du textile malien?
Mais c'est très simple, hein. On va revenir sur Mahatma Gandhi. Quand il est venu au niveau de l'Inde, il a dit d'accord, on ne va pas s'enfermer sur nous-mêmes, mais on va être égal à nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Senghor l'a dit. La civilisation, c'est les données et le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais cela ne voudrait pas dire qu'il faut abandonner totalement ce que vous avez. Donc, ce que la population doit faire aujourd'hui, c'est de retourner à nos bases, à notre valeur culturelle. Ce que nous faisons aujourd'hui comme tradition, ce que nous avons ici comme tissu aujourd'hui. Avant, c'était un peu confectionné grotesquement. Mais aujourd'hui, vous-même, vous voyez comment Mme Touré, comment elle est habillée.
Ah oui.
Mais quand vous allez ramener ce tissu-là 200 ou 100 ans derrière, ils vont dire que ça ne peut pas être confectionné comme ça. C'est pour vous dire que nous devrons rester égaux à nous-mêmes. Ce que nous produisons, il faut que nous consommions cela. Aucun pays ne peut se développer en consommant totalement l'extérieur. Donc, ce que la population doit faire, chacun doit tout faire pour avoir dans sa garde-robe au moins quelque chose. 2, 3, 4 complets de notre tenue, au fur et à mesure que les tenues évoluent, pour que ceux-là même qui travaillent puissent avoir l'engouement. Parce que vous savez, sans pour autant, faut qu'on se cache la face. Le tissage a tendance à disparaître. Si ce n'est pas dans ces derniers temps que nous sommes en train de faire revivre les choses. Parce que beaucoup étaient découragés. Ils disaient que le travail ne pouvait pas nourrir son homme. Effectivement, vous pouvez faire recommander de votre travail, vous restez pendant un mois, personne ne paye, comment vous allez vivre?
Quand les gens viennent, ils trouvent que le prix est exorbitant.
Non, le prix n'est pas exorbitant parce que nous, au niveau de l'artisanat, nous trouvons que le prix n'est pas exorbitant. Dans tout pays au monde, ce qui est fait à la main, c'est ce qui est cher. Mais pour que ça soit moins cher, il faudrait que les gens consomment. Parce que le travail à la chaîne, à l'usine, fait sortir au moins des milliers à la minute. Mais un artisan, pour pouvoir confectionner un tissu, pour faire une chemise, donc il lui faut au moins une semaine. Il doit vivre. Si nous voulons, en tout cas, que la chose se développe, il faudrait que nous aimions cela. Si nous voudrons que ça soit moins cher, il faudrait que chacun, en tout cas, participe au paiement. Parce que plus on paye, plus il y a beaucoup de gens qui le font, et moins ça va être cher.
Vous avez raison d'une part, mais de l'autre côté aussi, on a Aïcha, les consommateurs qui se plaignent du manque de finesse dans les finitions des artisans maliens, parce que tout le monde achète, on va dire, en fonction de sa catégorie, de ce qu'il gagne. On voit que les gens n'ont pas mal quand ils achètent, vous l'avez dit, des trucs chers à l'extérieur du pays, tout ce qui est fait à la main est cher. Mais ici, quand il s'agit de débourser sur ce que nos artisans locaux font, que ce soit les chaussures,
les meubles.
Voilà, simplement nos tailleurs. On préfère souvent aller voir les Sénégalais, les Nigériens. Mais est-ce que de ce côté-là aussi, il ne faudrait pas que les artisans revoient un peu cet état de fait ?
Vous avez touché du doigt la plaie. C'est ça. Nous, ce n'est pas parce que nous sommes sur le plateau que nous allons camoufler certaines choses. Ce problème de finition est une réalité. Nous leur disons tous les jours. Si vous voulez être compétitif, il faudrait veiller sur la finition. Vous ne pouvez pas faire un travail pendant au moins une semaine et qu'il vous reste 3 heures de temps pour finir et vous l'abandonnez. Moi, je connais beaucoup de gens ici qui paient nos tissus traditionnels, mais qui l'amènent à Dakar pour être cousus. Pourquoi ? Parce que quand ils le font, le modèle qu'ils voudraient d'abord, ça ne va pas être comparable au modèle qu'ils ont choisi. Et le problème aussi, c'est la finition aussi. Vous allez trouver beaucoup de tailleurs ici, beaucoup de couturiers chez nous aussi, qui font des coutures ouvertes. Alors ça, c'est dépassé. Mais aussi, vous dites à l'intéressé que voilà, le prix est cher. Mais il faut que l'intéressé se rende compte que j'ai payé de l'argent, mais je suis satisfait. N'importe quel produit de l'artisanat, c'est ce problème de finition qui est aujourd'hui. Mais en réalité, nous sommes en train de faire la sensibilisation pour que les gens s'améliorent. Il y a une amélioration aujourd'hui par rapport à cela, parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte que quand ils partent à l'extérieur pour les foires et autres, on leur repose cela. Donc, ils sont en train de s'améliorer.
On espère que les choses vont continuer de cette manière. Monsieur Ousmane Koulibaly, directeur du Centre de développement de l'artisanat textile, merci pour tous ces éclairages. Nous allons à présent avec l'actualité sportive. Nous recevons Khalifa Goïta sur ce plateau pour nous décortiquer l'actualité sportive. Alors Khalifa, bonsoir. Qu'est-ce qui domine l'actualité ?
Bonsoir Lala, bonsoir à tous les auditeurs. La compétition football des Jeux Olympiques Paris 2024 a démarré. Les demi-finales de la Coupe du Mali en football féminin ont été jouées mercredi dernier. On parlera aussi d'athlétisme.
Alors commençons par la compétition en football. Jeux Olympiques Paris 2024, le Mali et l'Israël se sont neutralisés 1-1 lors du premier match de poule.
Oui, au Parc des Princes à Paris, le Mali a partagé les points avec l'Israël lors de sa première sortie. Après 20 ans d'absence, les Aigles Espoirs signaient leur grand retour aux Jeux Olympiques. La première période a été totalement à l'avantage du Mali qui a manqué d'efficacité avec 13 tirs pour 3 cadrés. Toujours dominé au retour des vestiaires, les Israéliens ont réalisé un hold-up parfait quand Amidou Diallo, pressé par Oscar Glouc, a poussé le ballon au fond de ses propres filets à la 56e minute. L'espoir a été de courte durée pour les Israéliens puisque Chekna Doumbia, très en vue, égalise d'une tête imparable à la 63e minute. Aucun autre but ne sera inscrit dans ce match. Ainsi, le Mali affrontera le Japon ce samedi à 19h pour sa deuxième sortie qui avait battu le Paraguay 5-0.
Les résultats des demi-finales de la Coupe du Mali en dames sont disponibles, Khalifa Goïta.
Effectivement, en déplacement à Sikasso, mercredi dernier, l'AS Mandé est allé s'imposer 2-0 face à l'AS Momo au stade municipal de Sikasso. L'AS Police, de son côté, a battu les Super Lions 1-0. C'était sur le terrain de l'AS Real de Bamako. La finale entre l'AS Mandé et l'AS Police aura lieu ce samedi 27 juillet 2024 au stade Mamadou Konaté à 16h.
Et pour finir, les 43e championnats nationaux d'athlétisme se sont disputés les 20 et 21 juillet dernier à Sikasso.
L'initiative est de la Fédération malienne d'athlétisme. Le rendez-vous a regroupé les meilleurs athlètes du Mali qui ont été sélectionnés à partir des performances réalisées au meeting des 100 et lors des championnats nationaux cadets. 212 athlètes de 37 clubs se sont affrontés dans différentes disciplines pour la conquête du titre suprême. Les 2 jours de débat ont permis à l'ISFAS de se hisser sur le podium avec 22 médailles, 8 en or, 4 médailles d'argent et 10 médailles de bronze. bronze. La deuxième place est revenue à l'AS Police avec 18 médailles. Le Réveil Athletic Club de Kati a occupé la troisième place avec 5 médailles. Et voilà, c'est là ce qu'il fallait retenir de l'actualité sportive.
Merci beaucoup, Khalifa Goïta. Nous te disons à la semaine prochaine.
Après cette page sportive, nous partons en musique et cette fois-ci, nous allons jusqu'à Kidal. Aïcha.
Oui, Lala, nous allons retrouver l'enfant chouchou du désert, Tarhanine, qui chante ici Leïla.
Sur les platines de Ibrahim Sanogo, signé Kader Tarhanine, sorti il y a tout juste une année.
Maintenant, place à la revue de la presse en Bamanankan.
La revue de la presse.
Moussa Malissi Sogoyenou la Kokura.
Bah, Aïssata,
Dansi.
Anoula.
Si,
Koribasi. On a folie belbelebe auditeurs.
Eh, wa minye, kuna fo ni gafo ye, kumana minye, sanji ba, nou nananou ue tchenike, Moussa madame nani ue.
Reflet d'Afrique nale, kuna fo ni disoya, le koko, sanji min nana, kosaina, ae tchenike bla, anigao, dugu kon nana. Endepana, koka damne, jwe kalot le tani woro kanabla, atle mwa ni durula. Ka kololo sera gwa keme shegi, ani bishegi ni kodema. Waka e du kemenani ani biolon vlaniko ode bi segu kuchala ani sigaso marabolo konnana independent ka fola alsa ko dugunuye pensoba bla luluni kajolo circle la alnasro manima to langa a kololo kon boyana malijet.net ale koko ma bakele ani kemeshegi sandika kololo serol de ma pensoba nobe kuchala marabolo konnana indicateur de renouveau ale ko ma kemesaba sanji kololo serol de ma aninku ka sola bi okera bladu kon nana tenente mené jeu ka lotle mwani fla mali tribunal ale ko munako sambe chen ke bamako ko maube nyama min che ka bla fosse ko nana ko drone kelembe kololo e bamako ko ni sana na jite temesra soro ko maube dama kasla kasro o lu yere de sembeni koina indépendant ale signa kan ko kura ko mali metodu yen fo mawe de ka fo ko nyina samia ka be ke san yere.
Ewa Moussa Malle kulu min sigilendo wala sa min ye nyebla share yo ko lu ko ni gafe seben oni mauma daka ngado jamana ko manna oni ulu ko meka nyoko nyuke
chendo ay sata jara kulu min sigilendo ka nimbarake kanga laban ka gafe de la noy ben gafe charte de la paix la réconciliation nationale o ko ni kunye la yini min kera mali de on ka siga fote mené barake kulu min sigilendo ko ko nyana bo ani ma chama nyoko du tigu bola dinema u bola donzo fukata se politique je kuluma la fasali jekulu ye fukata se muso chifion ani alay mamuna jeke lojura la fukata se sanfe kalamfauma oye esor ka fotaye sahel tribune ale ya iraka fo ununu nunga sikika kuma ko otinte dore wala sa ko hakilna ufranyonka hakilna munweke sababuye ben basigi ani chela bem se ka sisi malikon nana l'indicateur de renouveau ale ko kuma ka ngoni etalike fem bas durukan noye ben lakana cela ben maldeunga kelenya fogata se anga sigi dialima info matin ale koko barake kulin ani politiki jekulu ka nyoye ko kumaka onkoni ka agwana donde ko politiki madobe krengrenya la noye jigiba keita yale nyingali tengu mie barake kulin nyemaye Ousmane Issoufou Maigaye ko uga matani kele mimi na lendo ko lufene maldende wa kolukun joro kumbekenen kai komuna utseka barake ukaseka bla Ousmane Issoufou Maigaye ajabi ko nintekene ni maube nyokon dalamine kuka sabali ko nintekene inafo mabina mwo blasra Ousmane Issoufou Maigaye miye talike ni politiki mwo nunga blalika ako kale tiseka kuma inafo alebe barake kiriso kononana kale tisego nyinga li jabi miye lezekoye alea ire nyinga kone asuro jamana ere dunkumbe fila miye benyinye ko sabla la jere chama kera maliko no mimbe talike benga ko sima sira soro wala sa maldonga don dakelen fo wabon dakelen fe bibi na kanganga ningela mbe mala kanga to nyini fo refe o de eko ka nyini ngale mi esori ale ko ni ayira ka voko ni siga fo min kera doa ko nkon nana ka nyana kosobe ko sabla asira maldembe la jele ndema lala ture
ai wa musa mariambe ni doro kun kuna fonya no ndatu ni nyana mini mafa mu ni aeroport muriwo ketala ni doro kun kon nana
tie do kuna fondi sira mbe bololo sanfe Mali 24.info ale ayira ka fo ko office central de stupéfiant ka bolo fora mbe Mali pankuruji kanaka aeroport international Mouribo Keita ko ye drogu ferla mafla mine indicateur de nouveau ayira ka fo ku kunkelembe ka ni nyana mini faible valizi chama de konnana wala sa mau kana seka ye kuma yego sigesel kala sera ka ni drogu wolo makabuka mina unchela indépendant go ko ni mafla munu ko mal den fla de don nationalité français fana bubolo ko cocaine kilo tani flade kumbubolo ushibeta samuga fo samuga nikelena ukumbe kataka Belgique jamana de kan ukumbe na labanga segi kana Francis fene info matin ale koko ni drogo ni ataka laje amusaga beta jo fo sefawari million kemenani ani bishegi nikola alsa info matin ka fola ni lebe dansigi revue de la presse la
enite musa maleka ni wala wala linu la ame kamet dan yoro ndoko ngore ola ni alama nga jona jona monsieur Kouliwali nous voilà presque au terme de cette émission qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour conclure.
Je voudrais saisir de cette occasion pour remercier les plus hautes autorités du Mali aujourd'hui. Parce que vous-même, vous l'avez remarqué, avec l'arrivée de la transition, nous, au niveau du secteur du textile, nous avons constaté qu'il y a quand même une amélioration. Les gens ont commencé en toi à aimer la chose à travers le Premier ministre du Mali, à travers beaucoup d'autres. Les remercier et dire encore que toutes les fois nos autorités disent qu'il faut que nous consommions ce que nous produisions. Il faudrait poser des actes pour que cela soit une réalité. Si nous voulons quand même donner du travail aux enfants, si nous voulons éviter à ce que les enfants ne partent pas se faire tuer sur le sable ou dans la mer. Le textile est un créneau qui peut créer de l'emploi, qui peut lutter contre le chômage. Et surtout que la tranche des sociétés qui travaillent beaucoup dans ce textile, c'est les femmes. Qui est une femme est toute une société. Et aussi, nous voudrons profiter pour dire aussi à la société, au peuple malien, de soutenir leur artisanat. C'est de payer ce qu'ils font.
Soyons nous-mêmes, Ampaté Baladi, quel que soit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, il ne sera jamais un crocodile. Merci beaucoup, monsieur Ousmane Koulibaly. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre de développement de l'artisanat textile, CDAT, fond du club de Tamani de ce vendredi. Il vous a été présenté par Lala Diarra Touré et Aïssata Diarra. Ibrahim Sanogo était à la technique. Merci à tous de nous avoir suivis. À vendredi prochain. Plaise à Dieu.